Ce deuxième dimanche de l'Avent est un mystère lumineux. Dimanche de la lumière. Un mystère lumineux, non pas au sens des mystères lumineux du rosaire, plutôt par sa proximité avec la fête de l'Immaculée Conception, c'était hier, qui est célébrée très justement comme une fête de lumière. C'est un dimanche de lumière comme le deuxième dimanche de Carême. Le deuxième dimanche de Carême, c'est le dimanche de la Transfiguration. Et nous avons un peu la même logique, une entrée en matière en rupture. Le premier dimanche de Carême, c'est l'envoi au désert. Le premier dimanche de l'Avent, dimanche dernier, c'est un appel réveil, appel à la vigilance. Je vous lisais ce qui était là, détox, on se réveille. Eh bien, ce deuxième dimanche mérite d'être considéré pour lui-même. La place de deuxième est difficile. C'est la vocation chrétienne par excellence, parce que c'est la vocation du messager. C'est l'identité de Jean-Baptiste qui annonce que celui qui vient après lui existait en réalité avant lui, et qu'il est et qu'il sera le Christ, le Messie. Dans une fratrie, le deuxième c'est souvent, pas toujours, mais c'est souvent l'enfant rebelle. C'est la place de tous les révolutionnaires de l'histoire. Il y a un seul cas dans l'histoire où un révolutionnaire était l'aîné de sa fratrie, c'est le Che Guevara, mais il avait une santé fragile, une enfance à part, était choyée, dorloté par ses grands-mères, c'est un cas à part. Mais les deuxièmes, ils doivent se rebeller souvent pour exister. Pas uniquement les deuxièmes, ceux qui suivent. Et c'est tout à fait autre chose que de choisir librement cette place. Parce que c'est ça le propre de la vocation chrétienne. Et c'est même ce que nous appelons la deuxième alliance. Et c'est également le rôle de la lumière de rejeter les ténèbres. C'est la raison pour laquelle nous commençons toutes nos messes en reconnaissant nos péchés. C'est la raison pour laquelle ce temps de l'Avent, qui est un temps de joie, c'est pas un temps de pénitence, c'est un temps de joie. Et pourtant nous le célébrons avec ces ornements violets, pour prendre conscience des ténèbres à rejeter. Et les trois figures de l'Avent, les trois grandes figures de l'Avent que sont Isaïe, Jean-Baptiste et la Vierge Marie, ont ceci en commun qu'elles ont fait toutes les trois le choix de s'effacer devant plus grand. Pour Isaïe, il s'agit avant tout d'honorer la transcendance de Dieu, ce que nous disons à la messe, à lui tout honneur et toute gloire. On dit des écrits des livres d'Isaïe, nous les lisons tous les jours de semaine, aux messes de semaine pendant le temps de l'Avent. On dit qu'ils sont poétiques, façon de dire qu'ils sont difficiles, parfois même incompréhensibles. Mais pourquoi? Parce que c'est la transcendance de Dieu qui est éblouissante. Éblouissante de lumière divine. Isaïe est un auteur qui n'a pas cherché à exister pour lui-même. Il a porté au plus haut degré la vocation de messager, c'est même sa devise. Me voici, envoie-moi. J'entendis la voix du Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Et je dis, me voici, envoie-moi. Lorsqu'un évêque est nommé, vous savez que l'usage veut qu'il choisisse une devise. Notre archevêque, Mgr Michel Aupetit, a pris comme devise une phrase de Saint Jean, « Je suis venu pour qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. » Nous-mêmes, prêtres, au jour de notre ordination, on choisit une phrase pour éclairer, pour illustrer notre consécration. Chaque chrétien, vous pourriez tous faire ça d'ailleurs aujourd'hui si vous ne l'avez pas encore fait. Quelle serait un petit peu la parole de l'Écriture qui serait votre devise? Voilà une bonne façon de prier, de pouvoir laisser résonner la parole de Dieu en vous. Mais dans l'Ancien Testament, c'était le nom de la personne. Et Isaïe veut dire « Dieu sauve », le salut de Dieu. C'est le résumé de l'Évangile, c'est la dernière phrase. « Tout être vivant verra le salut de Dieu ». La deuxième figure de l'Avent, Jean-Baptiste, était prophète lui aussi, le dernier des prophètes avant le Christ. Le prologue de l'Évangile de Saint Jean dit qu'il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Les plus anciens se souviennent qu'à la fin de chaque messe, par le passé, à la fin de chaque messe, on priait, on récitait le prologue de Saint Jean. Nous l'entendrons au jour de Noël, c'est l'évangile du jour de Noël, et au dernier jour de l'année, le 31, c'est probablement le plus grand texte de l'Écriture, qui dit qu'à tous ceux qui ont accueilli Jésus, il est donné de pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est ça que nous préparons à Noël, le mystère de Noël. À tous ceux qui accueilleront Jésus, il est donné de pouvoir devenir pleinement enfant de Dieu. La lumière de Noël vient de la place que nous donnons aux enfants. Aux enfants, façon générale, aux plus petits, aux faibles, à tous ceux qui ont besoin d'être protégés. Mais c'est ainsi que nous représentons la Vierge Marie, totalement consacrée à la mission de son Fils. Et elle est Vierge de lumière parce qu'elle nous donne Jésus. Et on peut dire que la devise de la Vierge Marie est semblable, très comparable à celle de Isaïe. C'est pas « me voici, envoie-moi », c'est « voici la servante du Seigneur ». Le père Maurice Zindel racontait une discussion entre des enfants qui venaient de faire leur première communion. Et ils comparaient entre eux un peu ce qu'ils ressentaient, comment ils l'avaient vécu. Et il y a une petite fille qui a eu ce mot génial. « Eh bien moi, il m'efface. Eh bien moi, il m'efface. » Ne l'entendez pas comme si cela veut dire qu'on n'existerait plus. C'est exactement le contraire. C'est l'accomplissement de la promesse de Dieu qui effacera tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous divise, tout ce qui nous retient loin de lui, quand il essuiera toute larme de nos yeux. Nous existons pleinement, notre existence véritable, nous sommes vraiment nous-mêmes quand nous nous reconnaissons dépendants, enfants de Dieu, quand nous acceptons qu'il soit premier. Quand nous acceptons notre vocation chrétienne de deuxième. Il y a tellement d'enfants qui ont été élevés, qui sont encore élevés, avec l'obligation d'être les premiers, d'être les meilleurs. Il y a tellement de parents qui rêvent que leurs enfants soient les meilleurs, les premiers. La formulation exacte chrétienne n'est pas qu'on soit les meilleurs, mais qu'on devienne meilleur. Qu'on devienne meilleur en donnant la première place à l'amour. Maintenant, il faut revenir à la première partie de l'évangile qui donne cette liste de 6 leaders terrestres, littéralement les protagonistes de l'époque, l'empereur Tibère, Ponce Pilate le gouverneur, le roi Hérode, un autre roi, son frère Philippe, et les deux grands prêtres Anne et Caïphe. 6 noms de l'époque de petits potentats. Et la rupture, le 7e, Jean. 6 hommes qui ont été, nous le savons, de tristes exemples de la propension humaine à sauver sa peau. Parce que c'est le mot d'ordre actuel, il n'est pas nouveau dans l'histoire, mais particulièrement vrai aujourd'hui dans le sauve-qui-peut général. Chacun veut sauver sa peau. Alors on va dire, ouais, mais enfin, il faut quand même qu'il y en ait qui prennent la tête, il faut quand même qu'ils assument cette fonction. C'est une objection sérieuse à la vocation chrétienne de deuxième, de dire que tout groupe, toute communauté, toute société a besoin d'un leader. Et l'Église ne déroge pas à la règle qui a à sa tête le pape, à la tête de chaque diocèse un évêque, dans chaque paroisse un curé. Alors vraiment, deuxième, est-ce que c'est vraiment une vocation chrétienne ? Disons d'abord que l'Église ne déroge pas non plus au péché des hommes par sa hiérarchie exclusivement masculine, par ses abus de pouvoir, par ces deux grands péchés de l'humanité que l'inégalité homme-femme et l'absence de fraternité, de véritable collégialité. Le risque mégalo menace tous les numéros 1. Il les menace et il les attire. L'Église est sainte lorsque le pape est la voix du Christ, lorsque l'évêque est fidèle au pape, le curé à l'évêque, lorsque nous sommes tous consacrés au salut des âmes. Nous sommes tous le deuxième de quelqu'un. Et il faut se méfier de celui qui le dénie, de l'enfant qui renie ses parents, le travailleur qui oublie ses mandants, l'époux de son épouse, le curé comme l'évêque de l'église. Toujours chez Zindel, j'ai trouvé une réflexion lumineuse sur la responsabilité des leaders. Il dit que leur rôle est d'assurer un espace de sécurité qui devienne un espace de générosité. Il cite un verset d'un sonnet de Shakespeare qui dit « Combien belle est l'humanité ! How beautiful mankind is ! Combien belle est l'humanité ! Rien n'est plus vrai, disait elle, à condition qu'elle soit et qu'on ne l'empêche pas d'être, en refusant fût-ce un seul homme, cet espace de sécurité qui permettra de faire de lui-même un espace de générosité. » C'est la contradiction que nous vivons. Quand nous imaginons que cet espace de sécurité dont nous avons besoin puisse être un espace de confort, alors qu'il nous faut sans cesse choisir entre la liberté et le confort. Demandez à Jean-Baptiste. Il a renoncé à son confort. Il a préféré la liberté. Cet homme n'était pas la lumière. Il était là pour rendre témoignage à la lumière. Jean-Baptiste a accompli le premier, sa vocation de deuxième. Nous sommes tous le deuxième de quelqu'un. Nous, chrétiens, du Christ Jésus. Deuxième, une vocation chrétienne.